Bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
Un mot pour commencer sur un sujet dont on a beaucoup parlé hier et sur lequel Matignon a tranché très vite, l'idée d'abaisser à zéro le taux d'alcoolémie autorisé au volant qui avait été proposé par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Cette idée ne sera pas retenue, elle est écartée par les services du Premier ministre. Est-ce que c'est une sage décision ?
Oui, toute consommation excessive d'alcool est irresponsable, mais enfin... Restons enracinés, un verre de vin n'a jamais fait de mal à personne. Et c'est faire injure à nos milliers de viticulteurs que de dire le contraire. On peut consommer du vin de manière modérée et raisonnable, et ça reste un trésor du patrimoine français.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette rapidité de décision ait quelque chose à voir avec le fait que le président de la République va rencontrer aujourd'hui les maires de France à l'occasion de leur congrès annuel ?
Il est probable que cette annonce du ministre hier matin assez malvenue a engagé l'Élysée et Matignon à réagir avec beaucoup de vivacité, parce que les maires, qui sont les élus les plus enracinés dans nos territoires, restent des hommes et des femmes de bon sens et savent combien ce type de propos très démagogiques n'ont rien à voir avec le réel et la réalité de nos compatriotes. Je le redis, nous devons sanctionner l'insécurité routière de manière exemplaire, mais sans cibler systématiquement les mêmes et certainement pas les viticulteurs français.
Vous avez été maire vous-même d'une commune du Loir-et-Cher pendant un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez que les maires attendent aujourd'hui, qu'ont-ils envie d'entendre du président de la République ?
Deux choses. D'abord, être certain qu'Emmanuel Macron ne viendra pas à ce congrès tel un marchand de sable ou d'illusions, berçant de fausses promesses les milliers d'élus locaux qui sont aujourd'hui les sentinelles de la République et qui permettent de protéger nos compatriotes. La deuxième chose, ce sont des propositions concrètes, pas de blabla, pas de grands discours. Je vais vous donner 2 exemples. Nous attendons, nous les élus des territoires, des engagements très forts du président de la République sur la question de la santé, de l'accès aux soins. Dans ma région, la région du Centre-Val-de-Loire, nous sommes la dernière région de France, par exemple, pour l'accès aux médecins généralistes. C'est une problématique prioritaire pour nos concitoyens. C'était la deuxième priorité des Français, la question de santé. Il y a des mesures concrètes à mettre sur la table. Par exemple, faciliter le cumul emploi-retraite pour les médecins, pour qu'ils puissent continuer à servir nos territoires. Ou plus largement, réfléchir à la régulation de la liberté d'installation des jeunes médecins en échange d'une augmentation significative de leurs revenus. Première idée. Deuxième idée, c'est les questions de mobilité et de transport. Moi, je fais une proposition. Pourquoi ne pas demander aux sociétés d'autoroutes, dont les profits sont considérables, 25 milliards d'euros depuis une quinzaine d'années, de contribuer chaque année pour financer la transition écologique dans nos territoires et permettre aux habitants du monde rural et périurbain d'acquérir un véhicule propre.
Alors vous êtes devenu récemment le numéro 2 des Républicains depuis l'élection de Christian Jacob à la tête du parti. Vous avez été l'un des fondateurs de la droite forte. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez toujours en phase avec cette ligne que vous défendiez ?
On évolue et on mûrit un peu avec le temps, mais oui, je ne change pas. Je vais préciser. Si la droite forte s'est affirmée l'autorité de l'État et une fermeté absolue, ce que je disais déjà en 2012 sur les questions de laïcité pour lutter contre le communautarisme et dire qu'en France les lois de la République sont supérieures à toutes les convictions religieuses, que dans notre pays la liberté de culte et de conscience doit être garantie, que dans notre pays l'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur qui ne se négocie pas. Alors oui, je continue à être de cette droite-là. Mais nous avons avec le temps ajouté un certain nombre de précisions. Une droite forte sur les questions régaliennes, une droite juste sur les questions économiques et sociales. Par exemple, j'en parle dans mon livre, l'idée fondamentale selon moi que la droite, pour redevenir majoritaire, se doit d'être la France, c'est-à-dire de récompenser celles et ceux qui travaillent, qui ont travaillé, qui veulent travailler. Nous devons tout à la fois être une droite forte sur les questions d'autorité, le parti de la laïcité, et une droite juste sur les questions économiques, c'est-à-dire le grand parti du travail, pas le parti de la finance, comme Monsieur Macron, le parti du travail, des entrepreneurs, des artisans, des fonctionnaires des services publics, des fonctionnaires de nos hôpitaux, des artisans, des entrepreneurs, des travailleurs, de la France qui travaille.
Alors je vais citer un passage de ce livre auquel vous faites référence, Milieu de cordée, qui vient de sortir aux éditions Plomb. Vous dites « Une certaine droite a voulu préserver les privilèges de quelques-uns, une certaine gauche a souhaité protéger l'assistanat de quelques autres. Il est donc temps que se lève un grand mouvement populaire pour promouvoir et défendre la majorité majorité, cette France du milieu, les milieux de cordée, devenus les premiers de corvée. Dans une certaine mesure, défendre cette France populaire, est-ce que ça n'est pas aussi ce que fait, et avec un certain succès électoral, Marine Le Pen ?
Non, je crois que depuis très longtemps dans notre pays, Emmanuel Macron lui-même le dit, il se prétend être le président des premiers de cordée. Mmh. Nous avons besoin des premiers de cordée, mais je suis assez sceptique sur la théorie du ruissellement, hein, qui fait croire que parce qu'on encourage uniquement les premiers de cordée, les milieux et les derniers finiraient par en bénéficier. Je rejette tout autant les extrêmes et les populismes qui considèrent que seuls les derniers de cordée sont d'importance. Ce qui me marque le plus, des jeunes apprentis aux retraités, en passant par les agriculteurs ou les travailleurs dont je parlais à l'instant, c'est qu'il y a une France silencieuse, majoritaire, la France oubliée, 70% de Français, qui ne veulent d'ailleurs ni de Monsieur Macron, ni de Madame Le Pen, qui sont politiquement orphelins et qui attendent un discours politique, des réponses politiques. Avec Christian Jacob, avec les Républicains, le grand défi que nous nous sommes fixés, c'était à l'horizon 2022, redevenir ce grand mouvement des classes moyennes et des catégories populaires.
Alors, puisque je parlais de Marine Le Pen, je ne m'attarde pas sur votre passage au Front National. Vous y revenez vous-même dans votre livre avec cette formule que vous empruntez à Simone Veil en disant les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. L'une des propositions fortes de votre livre, c'est la création d'une micro-taxe sur l'ensemble des transactions qui permettrait, selon vous, de supprimer toutes les cotisations salariales et patronales, donc d'alléger les charges pour les entreprises et d'augmenter les salaires pour les salariés. Et jusqu'à maintenant, cette proposition n'a pas, dites-moi si je me trompe, mais soulever un enthousiasme particulier, peut-être un peu chez Attac, mais si dans votre propre camp, ou à droite, d'une manière générale, on n'a pas entendu une espèce de vent d'enthousiasme particulier.
Si, vous savez, les idées nouvelles mettent du temps à émerger. Il n'y a rien de plus moderne qu'une idée dont l'heure est arrivée. Il faut être patient. Ouais. Si vous me parlez d'enthousiasme de la caste au pouvoir depuis une quarantaine d'années, les hauts fonctionnaires et les fermiers généraux de Bercy, probablement pas. Si par contre vous me parlez des économistes des territoires qui me soutiennent, des citoyens, des élus locaux, des parlementaires, nous étions plusieurs dizaines de parlementaires réunis encore la semaine dernière pour parler de ce sujet-là. J'ai vu qu'un sénateur centriste avec certains de ses collègues avait déposé une proposition de loi, des amendements qui vont dans ce sens. Ce que nous disons, c'est que...
Pour que les choses soient claires, vous dites au fond que le brut deviendrait le net sur la fiche de paye.
Nous proposons... une révolution du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que tous les revenus bruts pour les fonctionnaires, pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, pour les retraités, deviennent le revenu net. C'est une révolution comme le général de Gaulle avec l'intéressement et la participation, comme Nicolas Sarkozy avec les heures supplémentaires défiscalisées. À l'époque, ils ont mis du temps à convaincre les sachants et les experts de suivre cette idée populaire. Comment on finance ? Par un micro-prélèvement de 2% sur les transactions électroniques, scripturales et financières du quotidien. Oui, c'est une idée révolutionnaire qui mettra du temps à émerger, forcément. Mais ma conviction, c'est que les Français ne supportent plus, à la fin de ce cycle néolibéral, de voir que tous ceux qui travaillent et qui font des efforts ne sont plus récompensés et ont du mal à boucler leur fin de mois. Le grand défi de notre temps, selon moi, la grande cause de la colère sociale et économique dans notre pays, c'est que les revenus du travail ne sont plus différents des revenus de l'assistance. Et que ce sont toujours les mêmes, souvent tout en haut, qui s'en sortent mieux que ceux qui font des efforts. Moi, je reçois chaque semaine dans ma permanence parlementaire des infirmiers et infirmières, des personnels aidants de nos maisons de retraite, des entrepreneurs, des artisans, des jeunes apprentis qui n'en peuvent plus de voir les taxes et les impôts et qui veulent qu'on leur apporte une réponse. Voici une réponse concrète.
Merci Guillaume Pelletier. Bonne journée.